Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous y avons abordé de nombreux sujets qui relèvent des compétences, des missions et de l'action de Toulouse Métropole dans les domaines où elle exerce son champ d'intervention. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder notamment les thématiques de l'habitat et du logement lors de numéros précédents. Mais jusqu'alors, nous n'avions pas vraiment traité dans le détail le sujet du logement social, très important pour toute collectivité, mais peut-être plus encore s'agissant d'une métropole dont la population est en hausse continue depuis de nombreuses années. Que sont les missions et obligations de la collectivité métropolitaine en termes de logement social? Quelle est l'action de Toulouse Métropole dans ce domaine? Sur quels services, établissements et dispositifs s'appuie-t-elle pour la mener? Plus largement, quelle est la situation du logement social sur notre territoire, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires? Voilà les questions que l'on peut se poser et auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de l'émission qui va suivre. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Bertrand Serpe, premier conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole chargé de la transition digitale. Bonjour monsieur le vice-président et bienvenue une nouvelle fois dans cette émission.
Bienvenue, merci beaucoup à vous.
J'ajoute que vous êtes également membre de la commission Habitat et Logement de Toulouse Métropole et président de Toulouse Métropole Habitat, raison pour laquelle vous connaissez bien notre sujet du jour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser ce que sont les compétences et les missions spécifiques de Toulouse Métropole dans le domaine du logement social ?
Alors, Toulouse Métropole, aujourd'hui, est une métropole très, très active, puisque vous avez dit qu'effectivement, elle accueillait de plus en plus d'habitants chaque année. Aujourd'hui, on est à peu près 9 000, un peu moins de 10 000 habitants par an, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un flux de personnes qui viennent vivre et travailler sur Toulouse et qu'il faut bien loger. Le rôle de Toulouse Métropole, c'est effectivement, dans le cadre de sa mission d'habitat, de fixer les objectifs donc de logement et de logement social à produire et bien sûr à la location sur le territoire métropolitain. Et c'est pour cela que nous avons ce qu'on appelle la CIL, une conférence intercommunale du logement, qui est chargée de fixer les objectifs, alors liée depuis 2017, qui est chargée de fixer les objectifs à atteindre sur la métropole toulousaine. Voilà quel est le rôle dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le PLUH, le plan local d'urbanisme, donc intercommunal toulousain, de pouvoir fixer les objectifs de production de logements notamment.
Les communes ont des obligations en termes de logement social. Qu'est-ce qu'il en est de la métropole ?
Alors aujourd'hui, la métropole, elle a effectivement 21% de logements sociaux, puisqu'on parle de logements, le sujet de logement social, soit à peu près ce qui correspond à 84 000 logements. Il faut savoir que la loi donc impose 25% de logements sociaux qui sont atteints sur Toulouse et sur la métropole, donc les 37 communes, on est à peu près à 21% de logements sociaux. Alors aujourd'hui, la CIL donc, a fixé un objectif donc d'à peu près production de 7 200 logements par an, ce qui veut dire que Toulouse ville-centre en prend une grande partie, puisque c'est à peu près 60%. L'objectif de produire de logements sur Toulouse, c'est 60% pour Toulouse, et le reste, donc 40% pour les communes, donc les 36 autres communes de la métropole toulousaine. Ça, c'est des objectifs qui sont fixés, effectivement, par la métropole, et chaque ville, ensuite, doit travailler dans ce sens pour avoir le nombre de logements qu'il y a à produire pour loger ces Toulousains, les Toulousains, et puis les Toulousains qui viennent, et chaque année, en plus, vivre sur notre métropole.
L'accès au logement, bien sûr, est une priorité pour Toulouse Métropole, bon, pour toutes ces communes, bien sûr, en général, mais pour la métropole en particulier, notamment en raison de ce que vous évoquiez tout à l'heure, de cette progression démographique annuelle qu'il faut bien absorber d'une manière ou d'une autre. Par du logement social ou pas?
Alors, c'est une priorité parce que le logement aujourd'hui est en crise. Le logement est devenu un sujet régalien, comme la sécurité. C'est un besoin vital, en fait, pouvoir se loger, pouvoir bien se loger aussi. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est pour ça que nous en avons fait une priorité à la métropole. Et nous avons voté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Le président Jean-Luc Moudenc a fait voter donc une délibération avec une aide de 32 millions d'euros pour le logement à Toulouse supplémentaire, avec dans cette partie des 32 millions, il y a 25 millions pour la production de logements et de logements sociaux et de l'accession sociale à la propriété, et puis à peu près le complément, 7 millions en rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est aussi un sujet, des bâtiments qu'il faut réhabiliter et rénover pour pouvoir répondre d'une part aux exigences environnementales aujourd'hui que nous imposent les lois, et puis pour pouvoir répondre aussi à un habitat plus confortable pour les locataires, notamment des immeubles et des logements qui appartiennent aux bailleurs sociaux, par exemple.
Merci pour toutes ces précisions, ces premières explications. Il est bien de savoir qui est censé faire quoi dans un domaine donné. Il existe une agence locale immobilière sociale de Toulouse Métropole. Pour faire simple, on va l'appeler ALIS, hein, c'est l'acronyme ALIS. Quand a-t-elle été créée et quel est son rôle sur le territoire de Toulouse Métropole ?
ALIS, effectivement, c'est une création en 2018, donc, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Mais bon, il y avait quelques leviers juridiques qu'on a été obligé de lever, justement. Et cette agence immobilière, elle a pour vocation, elle part du principe qu'il y avait des logements aujourd'hui de propriétaires privés qui étaient inoccupés, donc vacants, et qui, pour des raisons X, Y, de confiance ou des raisons de des problèmes de rénovation énergétique, avaient du mal à être sur le marché. Et nous, on s'est demandé comment on pouvait, c'est nous la collectivité, la métropole, comment le service public peut aider effectivement ces petits propriétaires à pouvoir louer leur appartement. Dont la création de cette agence immobilière sociale qui est un peu finalement un tiers de confiance qui permet effectivement à un propriétaire qui a un bien qui n'a pas été rénové de lui donner des conseils, de pouvoir accéder à certaines aides pour pouvoir rénover son appartement, de pouvoir bénéficier d'une sécurité puisque c'est on lui demande un contrat de 6 ans avec ALIS, hein, pour qu'on lui trouve des locataires qui sont aussi quelque part garantis, ça leur garantit qu'ils vont avoir leur loyer payé tous les mois. Et puis, il y a un certain nombre d'avantages aussi pour ce propriétaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir une défiscalisation entre 20 et 30%. Il peut aussi avoir un certain nombre d'avantages pour la rénovation de son appartement. Et puis, une sécurisation avec ce tiers de confiance qu'est la métropole, quelque part, avec des frais, bien sûr, tout à fait réduits. Et tout ça permet finalement de relancer sur le marché des appartements qui étaient jusqu'à présent vacants, et qui vont pouvoir, pour un loyer modeste, toucher d'une population qui ne rentre peut-être pas dans le logement social ou qui a du mal à rentrer dans le logement social, mais qui, grâce à, c'est du logement privé, mais garanti par la métropole, va pouvoir toucher autour de 480 € par mois un T3 au Pont des Demoiselles, pour ne donner qu'un exemple, donc à un prix relativement avantageux. Et cette agence immobilière ALIS, elle débute bien, elle commence bien. Il y a déjà des dizaines de propriétaires qui nous ont fait confiance et on va crescendo. Ce qui prouve qu'il y avait, quelque part une niche à prendre. Et l'idée aussi, cette agence immobilière, elle, dans son fonctionnement, elle travaille avec un certain nombre de sachants, ce qu'on appelle par exemple TMH, Toulouse Métropole Habitat, dont je suis le président, le bailleur qui est dans ce qu'on appelle un GIP avec Habitat Humanisme, donc une autre association pour pouvoir aider effectivement ces propriétaires en leur donnant des conseils, en les aiguillant, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des possibilités d'avoir des aides pour rénover leur appartement. Et tout ça, finalement, c'est un tiers de confiance qui rassure les propriétaires.
Et ALIS intervient, peut agir en tout cas sur tout le territoire métropolitain, toutes les communes.
Voilà, oui, toutes les communes.
N'importe qui peut donc s'adresser à cette agence locale immobilière sociale de Toulouse Métropole. Vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais les avantages pour un propriétaire de choisir de travailler avec ALIS, quels sont-ils ?
Les premiers avantages que je vois, c'est d'abord d'avoir un tiers de confiance sécurisé. Donc,
être accompagné dans toutes les
démarches. Et puis, le tiers de confiance, c'est-à-dire, on sait que son appartement va être loué à quelqu'un, les loyers vont être payés.
Il y a une garantie sur le paiement des loyers.
Parce qu'effectivement, il y aura tout un travail en amont qui aura été fait par l'agence. La défiscalisation aussi, parce qu'on peut défiscaliser, donc entre 20 et 30% effectivement son produit. Et puis le troisième avantage que je vois, c'est que ça s'inscrit sur un temps long, c'est-à-dire que c'est sur 6 ans. Donc ça veut dire que sur 6 ans, vous êtes garanti que, encore une sécurisation, vous allez avoir un locataire dans votre appartement. Et ça, c'est la métropole qui vous le garantit, avec ce fameux groupement d'intérêts donc, qu'on a créé. Donc tout ça, c'est déjà très important. Alors après, ça c'est côté propriétaire. Côté locataire, il y a des frais d'agence qui sont réduits. Il y a effectivement la possibilité d'avoir des loyers, comme je l'expliquais à l'instant, beaucoup plus intéressants, 20 à 30% moins chers que sur le marché du privé, hein, je parle du privé. Hein. Donc voilà, ça c'est déjà deux avantages, à mon avis, très importants pour le locataire aussi.
Alors j'ai vu qu'il y en avait d'autres, par exemple, on peut bénéficier d'aides financières si on veut rénover son logement.
Oui, ça aussi, oui, tout à fait.
Et puis le logement est remis en état après la location.
Oui, c'est ça.
Ça c'est aussi un avantage.
Ça, oui, c'est un avantage.
C'est pas neutre tout de même.
Hein. C'est vrai que c'est pas neutre, c'est pas neutre. Une fois que, mais ce que je disais, que dans les six ans, chaque fois, on retrouve un locataire. Donc finalement, oui, on fait les réparations et puis on reloue sur le marché au prix indiqué.
Alors la contrepartie pour le locataire, c'est que donc, bah, y a un engagement, un bail de 6 ans ferme, ça, c'est, là, on ne peut pas y déroger. Et puis aussi, il renonce à choisir son locataire, inévitablement.
Ah oui, ça oui. Le propriétaire ne peut pas choisir son locataire. Mais comme on lui garantit un bon locataire, je ne sais pas ce que c'est un bon locataire, mais un locataire qui va payer ses loyers, en tout cas, c'est quand même une sécurité.
Lorsqu'on est un locataire dit précaire, quelles conditions faut-il remplir pour être éligible au dispositif Alice ?
Il faut avoir effectivement des revenus qui sont...
suffisants quand même pour payer un loyer.
Alors comment dire ? Il faut que les revenus soient suffisants pour payer le loyer, mais on ne peut pas confier ce genre d'appartement à des gens qui ont des revenus très importants. Donc il y a des seuils qui permettent finalement de déclencher la possibilité de pouvoir accéder au système Alice. Donc ça, c'est très important. Mais dans cette garantie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bien sûr, une garantie de pouvoir payer son loyer. Ça, c'est important.
Donc, il faut une situation stable.
Une situation stable.
Notamment salariale, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Alors après, qu'est-ce que ça veut dire une situation stable ? Il y a des situations stables. Il y a des salariés qui sont instables. Il y a des salariés qui sont stables. Il y a des professions libérales qui sont stables et d'autres instables. Bon, voilà. Mais ça, c'est le rôle, justement, aussi, peut-être...
D'évaluer
de l'agence Alice avec ses spécialistes à l'intérieur pour pouvoir porter les meilleurs dossiers de façon à ce que le propriétaire ait sa garantie de paiement des loyers.
Mais c'est-à-dire que le locataire précaire aussi bénéficie, lui, d'un accompagnement personnalisé à sa situation personnelle.
Alors après, il y a toujours des accidents de la vie, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça, c'est partout pareil. Hein. Donc, il peut y avoir des accidents et ça, on ne garantit pas les accidents de la vie.
Et puis, bien sûr, pour le locataire, il y a un loyer qui est moins cher. Alors, je crois que ça peut aller de 15 à 45 % par rapport au prix du marché, tout de même.
En moyenne, c'est à peu près, comme je disais tout à l'heure, 30%.
30% plutôt.
Moi, je dis entre 15 et 45, c'est 30% moins cher. Ce qui n'est pas négligeable.
Lorsqu'on veut faire une demande de logement social, comment faut-il faire ? Comment on procède ?
Il y a plusieurs solutions. On peut aller voir son bailleur, un bailleur social. Il y en a plusieurs sur la place Toulousaine. On peut aller sur le site du conseil départemental. On peut aller sur le site de la métropole. Il y a toujours un lien qui vous renvoie effectivement sur un lien de demande de logement 31.fr. Je crois que c'est ça.
Ouais, c'est www.demandedelogement31.fr.
Voilà, c'est exactement ça. Et puis après, vous constituez votre dossier. On vous confie un numéro unique. Et ce numéro unique-là vous permet après d'aller dans n'importe quel bailleur, dans n'importe quelle structure pour pouvoir effectivement, c'est un réseau commun hein, et on a tout votre dossier. Alors c'est sur du déclaratif, ça il faut le dire, c'est un avantage et un inconvénient, mais après quand vous avez accès à un logement social, vous passez effectivement en général dans des commissions qui évaluent effectivement votre degré de priorité.
Donc il y a des critères pour ça.
Il y a des critères. Alors, qui vous disent que finalement, est-ce que vous êtes prioritaire ou pas ? Ce qu'on appelle par exemple les DALO, qui sont des...
C'est un dispositif,
un dispositif qui a un droit au logement prioritaire, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, parfois une situation critique, avec des revenus plutôt faibles, ou si vous avez des enfants. Voilà, il y a plusieurs critères qui font que finalement, vous êtes éligible au DALO. Et donc, vous devenez prioritaire au logement social. Ça veut dire que dans les commissions d'attribution des logements sociaux, parce que les logements sociaux sont attribués dans des commissions. Il y a à peu près 36 000 sur la grande métropole demandes de logement par an et on en attribue très peu. Quoi. Parce qu'il y a la crise du logement, parce qu'il y a les mutations qui sont bloquées, parce qu'il y a la manque de confiance effectivement aujourd'hui dans l'économie et les gens ont du mal à quitter leur logement. Tout ça fait qu'il y a une espèce d'encombrement du logement. Et puis, bon, vous connaissez bien la crise d'immobilier aussi avec les promoteurs qui ne produisent plus de logements Et vous savez, il y a 25% de logements sociaux dans chaque production de nouveaux immeubles, de nouveaux immeubles par les promoteurs. Et ça ne se fait plus, ce mouvement ne se fait plus, tout est grippé. Et alors, les solutions, c'est d'être patient. Beaucoup de personnes essaient d'avoir des priorités. Mais maintenant, on en est un peu la priorité des priorités. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il y avait des prioritaires, des publics prioritaires et des publics qui étaient moins prioritaires. Maintenant, il y a des publics qui sont très prioritaires, donc qui sont prioritaires, mais un peu moins. Enfin, on gère les priorités, quoi.
Question qu'on peut se poser, que se posent sans doute certains de nos auditeurs, est-ce qu'on peut refuser une proposition de logement social? Et si c'est le cas, quelles conséquences peut-il y avoir à un refus?
Alors moi, j'ai tendance plutôt à dire à ceux qui cherchent un logement social d'être le plus précis dans leur demande, mais tout en se disant qu'il faut quand même être plutôt ouvert à des...
Souple.
Voilà, j'ai cherché le mot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exiger, par exemple, le quartier Saint-Cyprien. Il faut dire, par exemple, la rive gauche ou la rive droite. Parce que si vous restreignez votre demande à une demande très, très particulière, je veux un appartement Place des Oliviers à Saint-Cyprien, là, vous n'avez quasiment aucune chance de trouver, parce que c'est très rare, un logement social. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre priorité éventuel ou votre rang va être, si vous refusez la proposition qu'on vous propose de Mirail, par exemple, si vous refusez pour raison XY, eh bien à ce moment-là, votre proposition va être déclassée, puisqu'il y a tellement de demandes, et ça sera plus compliqué d'accéder au logement. Donc moi, je conseille vraiment d'élargir le plus possible votre demande, et puis en fonction de vos goûts, hein, bon, et puis d'être patient, parce que c'est très long.
C'est bon à savoir, effectivement. Il existe une cotation du logement social. Alors, qu'est-ce que c'est et comment est-elle calculée?
Alors ça, c'est la nouvelle loi Elan, la loi Elan qui a imposé la méthode des quotas, ce qu'on appelle des cotations, et la méthode des flux. C'est deux choses. Alors, la méthode des cotations, c'est peut-être la plus simple, c'est-à-dire que maintenant, on attribue, alors il faut bien spécifier, on attribue des points en fonction de vos priorités, en fonction de votre situation, en fonction de votre... si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, si vous êtes porteur d'un handicap, voilà. Il y a un certain nombre de conditions, on vous attribue une note et puis il faut bien spécifier que la note finale que vous avez, c'est une note de conseil. Quand se réunissent les commissions d'attribution des logements sociaux dans n'importe quel bailleur ou à la ville de Toulouse, qui sont composées ces commissions à la fois de membres qui sont des associations, des syndicats, mais aussi des représentants des locataires, des élus, il y a un peu tout le monde. Dans cette commission-là, cette cotation ne sert que finalement à se donner une idée sur la situation de la personne qui fait la demande de logement social. À TMH, par exemple, d'abord, nous avons voté l'anonymisation des candidatures. Donc, quand vous arrivez en commission, vous n'avez ni les noms, ni les situations, ni rien. Si vous êtes hors UE, ou voilà. Et vous avez ce système de cotation qui vous permet de dire, ben voilà, il y a quand même une femme seule avec enfant, c'est différent d'une femme seule sans enfant. Un couple qui travaille, vous voyez, donc un certain nombre de points qui vous donnent une idée sur la situation pour finalement décider l'attribution. Et après, il y a la méthode des flux. Alors, la méthode des flux, c'est un peu particulier, c'est un peu technique, mais c'est avant, pour être très simple, on raisonnait avec chaque, par exemple, bailleur ou chaque réservataire, c'est-à-dire les villes, la ville de Toulon a un quota de réservataires chez les bailleurs sociaux en fonction de ce qu'on appelle des aides à la pierre qui garantissent finalement les emprunts pour créer des logements. Avant, on avait une méthode à l'appartement, tant d'appartements dans tel immeuble se libèrent, donc on va le donner à celui qui est réservé, tel ou tel bailleur. Maintenant, c'est méthode des flux, c'est-à-dire qu'on réserve plus en flux, on a tant d'appartements disponibles sur Toulouse, par exemple, et vous vous répartissez en fonction des conventions, c'est un peu technique, mais que vous avez signées entre la métropole et les villes, vous vous répartissez les appartements libres. Voilà. Donc, ces méthodes des flux et des cotations, c'est la loi Elan qui l'a imposée, et elle est maintenant en vigueur, donc, sur Toulouse métropole.
Voilà, et donc le nombre de points d'une cotation permet de classer de façon objective et équitable, voilà, les demandes de logement social.
Exactement.
Le but, c'est ça, le but
premier. C'est d'avoir une équité, effectivement, en toute transparence.
Si on cherche des informations sur la cotation de son logement, alors là, c'est pareil, il faut regarder sur ce portail que j'ai cité tout à l'heure, www.demandedelogement31.fr, et puis on peut aussi se renseigner auprès des guichets de Toulouse Métropole.
Bien sûr.
Des guichets d'enregistrement, comme pour n'importe quelle demande.
Vous pouvez aller au service du logement, donc à la ville de Toulouse, ou vous pouvez aller chez n'importe quel bailleur, TMH par exemple, aussi à l'accueil, vous pouvez vous renseigner.
On va en rester là. J'espère qu'on aura tout dit. C'est la fin de ce numéro de Métropole et vous. Il me reste à vous remercier, Bertrand Serpe, de nous avoir présenté l'action de Toulouse Métropole pour le logement social, ainsi que les dispositifs et les aides existantes dans ce domaine. Et puis donc, Alice, cette agence locale immobilière sociale. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr, et vous pouvez également vous connecter au site web d'Alice à l'adresse www.alice.imo.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique aujourd'hui Yannick Galupini. Bonne fin de semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.